France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
Bonsoir à tous. Si l'on réécrivait la Marseillaise, l'une des images sonores du jour, c'est Catherine Ringer, la star d'Erita Mitsouko, qui a osé le faire ce matin, en pleine cérémonie de scellement de l'IVG dans la Constitution. Le sang impur est devenu la loi pure. Peut-on toucher à cet hymne guerrier? Et à quoi sert un hymne national? Au menu des informés, bien sûr, le 8 mars, l'IVG qui entre donc dans la Constitution, mais aussi des agressions qui se multiplient contre les sites qui les pratiquent. L'experte des informés sera Sylvie Pierre-Brossolette, présidente du comité à l'égalité hommes-femmes sur l'IVG. Emmanuel Macron lui envisage désormais le niveau européen. Et puis le CAC 40 qui enchaîne les records au-delà des 8000 points. Grosse plus-value pour les uns, plan de rigueur pour les autres. Faut-il fiscaliser ces gains? On en parle avec nos informés ce soir qui sont Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bonsoir Franck, Olivier Perroux du service politique de l'Express. Bonsoir, bonsoir à vous. Et Véronique Reissoult, présidente de Backbone Consulting, auteur de L'ultime pouvoir, la face cachée des réseaux sociaux aux éditions du CERF. Bonsoir Véronique.
Bonsoir.
On commence donc par cette surprise du chef. Allez, ce matin, dans la solennité de la cérémonie de scellement sur l'IVG, soudain surgit Catherine Ringer avec une Marseillaise revisitée. Voilà, le sang impur qui abreuvait les sillons, eh bien, cette fois, c'est la loi pure dans la Constitution. Choqué, enchanté les uns les autres. Qui veut commencer?
Enchanté, je trouve que ça a été. C'est une revisite très élégante, adaptée à l'ère du temps. Alors, il faut savoir que l'Élysée a été assez surpris. Hein, il ne savait pas qu'elle allait modifier.
À l'image, ça semble effectivement
exactement,
le cas.
Exactement. Ouais, j'ai contacté l'Élysée pour savoir mais qui a eu cette idée. Ouais. Et en fait, ils m'ont dit mais en fait, on l'avait invité, on était très content de l'inviter. Le président de la République était ravi, mais personne ne s'attendait à ce qu'elle modifie ainsi le texte de la Marseillaise. Donc, agréablement surpris.
Quitte à célébrer la liberté, Catherine Ringer a dû se dire, mais allons-y, quoi, soyons libres, Véronique Reissoult.
Oui, c'est ce qui a plutôt été retenu. Alors après,
les réseaux sociaux, ils ont trouvé
ça bien. Ils ont posé la même question que vous d'ailleurs, c'est finalement quelle est la symbolique d'un hymne et pourquoi un hymne et pourquoi. Enfin voilà, à chaque fois on se repose la question. Et il y a beaucoup d'explications aussi sur les paroles qu'elle a changées, le fameux sang impur, que veut dire le sang impur. Enfin, il y avait pas mal d'explications cet après-midi. Mais globalement, c'est un totem qui ne doit pas être modifié pour longtemps, donc ça passait. Parce qu'ils considéraient que c'était extrêmement bien adapté au moment, c'était extrêmement judicieux au regard de ce qu'on vivait.
Mais ils n'avaient pas envie d'aller trop loin.
Ils n'avaient pas envie qu'on change trop loin. Donc, ça a plu, étonné, autant visiblement que pour l'Élysée. Ça a été très repris, c'était le son lui-même et ce passage qui était repris, c'était pas tant commenté que ça après en soi. C'est un moment d'émotion partagée. Et puis après, il y a toujours des petites polémiques sur le web. Et donc, vu que monsieur Macron a essayé de la saluer après et l'a pris par l'épaule ou je sais pas, et qu'elle s'est échappée. Et donc, ça réjouit les uns et les autres en disant que c'était une femme libre. Enfin, voilà.
Franck de Dieu, sur cette réécriture.
Je ne crois pas que ce soit un sacrilège, c'était de circonstance. En revanche, je ne crois pas du tout que ce soit très subversif, hein. C'est gentiment subversif. Ouais. Voilà, c'était un moment clé où il fallait peut-être féminiser ce chant. On dit ce chant guerrier, mais il s'inscrit dans des circonstances particulières. C'est la Révolution française.
Vous nous faites historique, allez-y.
C'est la Révolution française, c'est quelques mois avant Valmy, c'est l'armée du Rhin, et donc il y a l'idée que...
Capitaine Rouget de Lille.
Que notre histoire, elle est faite d'une liberté qui s'obtient à la force des baïonnettes. C'est pas toujours de façon avec des...
Et c'est peut-être pas un tapis dans l'air du temps avec la guerre en Ukraine, si je peux me permettre.
Bien sûr. Donc, quelque part, cet hymne restitue le caractère guerrier d'une liberté qui se conquiert, ça me paraît pas tout à fait anormal. C'était Clémenceau qui disait la révolution, il faut la prendre en bloc. Eh bien, c'est à peu près pareil. La Marseillaise, il faut la prendre en bloc. Moi, je regrette que on essaye de gommer, de ouater, de rendre un peu, de faire de la guimauve par une capacité à s'extraire du contexte. Non, le contexte était celui d'un peuple en armes, de début de la conscription, de la Révolution française. Et je dois avouer que lorsque la Marseillaise est interdite, c'est lorsque justement la France n'est pas libre, que les monarchies reviennent, que l'Empire aussi, et puis bien sûr sous l'occupation. J'ajoute aussi que la Marseillaise a fait, dans cette version-là, le tour du monde. Les républicains espagnols, en 1931, chantaient la Marseillaise. Combien de dictateurs sud-américains ont été renversés, ou avec des tentatives de renversement au chant de la Marseillaise. Donc, il y a quelque chose, si vous voulez, dans ce chant guerrier qu'il faut assumer, parce que notre histoire est tragique et il faut assumer de restituer ce qu'il y a de tragique.
Vous vous êtes jamais dit, en l'entendant dans un stade, par exemple, que vient faire ce sang impur ou dans des cérémonies, Olivier Perroux?
Mais non, parce que encore une fois, je souscris à ce qui vient d'être dit. On la prend en bloc. Alors évidemment, c'est dans un stade, dans un contexte assez particulier. Alors on va pas s'arrêter sur le sang impur forcément, mais on va pas gommer pour la simple et bonne raison que ça fait étrange dans un stade pour célébrer je sais pas une coupe du monde, un euro de football, etc.
N'empêche que là c'est bien ça qu'elle a enlevé, hein.
Oui, mais c'est ça qu'elle a enlevé. Alors à la limite, si allez allons-y, s'il fallait mettre une critique, peut-être qu'on l'aurait pas pu enlever, mais bon, c'est un moment de fête aujourd'hui parce que c'est une liberté gagnée. La loi est pure et au contexte qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas parce que la loi est inscrite dans la Constitution qu'il n'y a pas des gens qui s'y opposent aujourd'hui vertement. Il est bien de rappeler que c'est une loi pure aujourd'hui. C'est une chanson qu'il faut garder dans son texte. On peut éventuellement la modifier. Allez, je trouve ça assez intéressant de réfléchir à des nouveautés. Mais
alors réfléchissez, on tentera ça juste après le fil info de Stéphane Milhomme, puisqu'il est 20h10.
La Turquie prête à accueillir un sommet Russie-Ukraine. C'est le président Recep Tayyip Erdogan qui l'assure au moment où il reçoit à Istanbul son homologue Volodymyr Zelensky. Depuis 2 ans et l'invasion de l'Ukraine par les soldats russes, la Turquie cherche à maintenir de bonnes relations avec les deux belligérants. Le verdict à Saint-Omer de la cour d'assises du Pas-de-Calais, 30 ans de réclusion dont une peine de sûreté de 20 ans. Jonathan Boilet, 36 ans, est reconnu coupable d'avoir brûlé vive sa compagne Sandy Cucheval. C'était en novembre 2020. La jeune femme était décédée quelques jours plus tard à l'hôpital de Lille. Une cérémonie pour sceller le droit à l'avortement dans la Constitution française. C'était ce midi devant le ministère de la Justice. En ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, l'assistance a commencé par Emmanuel Macron, a applaudi une version revisitée de la Marseillaise signée Catherine Ringer sur le thème « Aux armes citoyennes », détournant les paroles de Rouget de Lille. Et puis avant-dernière étape, demain du Paris-Nice, 104 km entre Nice et la Madone Dutel, parcours modifié en raison de la neige. Le maillot jaune est ce soir sur les épaules de l'Américain McNulty. Victoire d'étape du Danois Skel Mose. C'était à la colle sur Loup, toujours dans les Alpes-Maritimes.
France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
Revisite la Marseillaise dans les informés ce soir. Soyons fous. Franck Dedieu est là pour Marianne, Olivier Perroux pour l'Express, Véronique Ressoud pour Backbone Consulting. Alors, d'autres avant Catherine Ringer ont essayé. Vous en avez forcément en tête.
Serge Gainsbourg, le plus connu.
Allons-y. 1979.
Allons enfants de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. L'étendard sanglant des bœufs.
La version reggae, effectivement, aux armes, etc. Alors, il n'avait pas tant que ça touché aux paroles, hein, quand même.
Non, mais ça avait créé une vraie polémique chez les militaires, notamment, ou chez les responsables politiques de droite à l'époque, qui étaient vent debout contre cette reprise.
Plus difficile, je ne sais pas si vous connaissez celle-là.
Pour les enfants de la patrie, le jour d'y croire est arrivé. Entre nous, la tyrannie.
Yannick Noah ?
bien.
Attendez, on la garde.
Oui, les bagarres, c'est bien terminé. Efforçons-nous dans nos campagnes d'ouvrir nos esprits à donner de la paix, de la tolérance. Retrouver les vertus de la France.
Voilà, on est en 98, ça s'appelle Au rêve citoyen, donc les bagarres c'est bien terminé, efforçons-nous dans nos campagnes d'ouvrir nos esprits, à donner de la paix, de la tolérance et retrouver les vertus de la France. On change quand même d'ambiance là.
Ah, c'est très Dieu. Bisounours, c'est toujours pareil. À partir du moment où on actualise, on veut rendre les choses beaucoup plus lisses. Bon, après tout, moi encore une fois, je ne considère pas que ce soit un sacrilège. Il y a une liberté de création, une liberté de détournement qui me semble plutôt sympathique. Mais voilà, il faut aussi pouvoir en parler et se dire que tout artiste qui se doit de revisiter la Marseillaise se croit obligé d'y mettre d'en faire une bonbonnière et de oui au pays des jouets quoi.
En tout cas, c'est un sujet qui fait quand même cogiter depuis longtemps. On va en écouter une dernière, c'est une version avec un texte d'enfant qui date de 1892. On l'écoute.
Les dames citoyens, rompez vos bataillons, chantez, chantons, et que la paix féconde nos sillons.
Oui, je ne sais pas si vous avez entendu au début, c'est plus d'armes citoyens. Ouais. Voilà, que la paix féconde nos sillons.
Et de nouveau, c'est ce passage du sang impur qui est enlevé.
Absolument. Et précision, ça a été réécrit dans un orphelinat expérimental à Saint-Puy dans l'Oise, orphelinat qui était dirigé par un pédagogue libertaire qui s'appelait Paul Robin. Donc on est en 1892. C'est quand même un sujet qui est vieux comme cette Marseillaise finalement.
Oui, et puis il vient de rappeler aussi justement que souvent les monarchies qui sont revenues quand la France n'était pas libre, on a essayé de l'effacer. Qu'on la réécrive, c'est une chose, mais qu'on la garde, c'est important, même pour célébrer des moments heureux. Marx disait ceux qui oublient leur histoire sont condamnés à la revivre. Donc il faut pas qu'on oublie comme vous disiez tout à l'heure que cette liberté on l'a obtenue aussi par le sang. Cet extrait qu'on vient d'entendre aussi, il faut peut-être rappeler qu'on est dans un contexte d'après-guerre où la France ça a été très très difficile pour la France, donc où on cherchait justement des moments de paix, puis elle revient en 14 ensuite. Je crois aujourd'hui à une époque où, je le disais tout à l'heure, il y a la guerre en Ukraine, la guerre en Europe, et les débats qu'on a en ce moment avec autour de s'il faut envoyer des troupes ou aider l'Ukraine, etc. C'est important de se souvenir que la liberté, justement, eh bien, on l'a été la chercher avec les armes, notre sang impur ou que sais-je, parce que aujourd'hui, la France, avec sa Marseillaise, eh bien, est un modèle pour la liberté. Alors c'est peut-être oui, mais c'est important de le rappeler et d'y rester attaché.
Je vais être honnête, je suis assez surprise de vos réactions, mais très bien, ça m'a très bien. Je vais préciser aussi que c'est les chansons plus bifluorées qui reprenaient cette version d'enfant en 2009. Véronique Ressoult, vous parliez du sang impur. Oui, ils en disent quoi?
Je disais tout à l'heure que dans l'après-midi, il y a les gens trouvaient ça plutôt émouvant, intéressant, mais à condition que ce soit juste pour aujourd'hui et que c'était adapté. Mais il y a eu des grands débats sur le sang impur et sur la réalité que le sang impur, ça n'est pas comme on l'imagine le sang des ennemis, mais le sang des expatriés, des traîtres, c'est notre sang, ceux qui n'ont pas été à la hauteur d'eux. Et donc on voit bien que c'est plus complexe. Et d'ailleurs, c'est toujours ce passage qui est celui qui est gommé parce que c'est celui qui est le plus compliqué à comprendre parce que c'est un contresens. Donc forcément... ben voilà, on est moins à l'aise. Alors, je ne sais pas si c'est bisounours ou pas bisounours pour répondre à Franck.
Je cite mes sources parce que c'est vrai que je...
Bisounours, on les cite.
Bernard Richard, qui est un historien, avait été interviewé, je crois que c'était dans l'Obs, et expliquait l'histoire. Alors lui, à la thèse, c'est Antoine Barnave, qui est un élu de la Constituante, donc dans les premiers jours après les États généraux, qui utilise le terme de sang impur. Il qualifiait les ennemis de la liberté. Il n'y avait pas de référence à une nation, encore moins à une couleur de peau. C'était l'idée des ennemis de la liberté. Et d'ailleurs, il faut il faut dire que c'est à ce moment-là que la France institue de façon pérenne et pensée le droit du sol. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que la Révolution française a produit cette expression « sang impur » alors qu'elle a produit concomitamment quelque chose qui fait le génome politique de la France, c'est-à-dire le droit du sol.
Il va loin, hein, Franck de Dieu. Juste pour finir sur ce sujet, donc j'imagine si je vous demande qu'est-ce que vous changeriez vous, Franck de Dieu, vous changez rien.
À moi rien, pas une virgule.
Voilà.
Je change rien. On peut faire un rajout. Je trouve que le rajout de Catherine Ringer, il est formidable, il est d'époque, il passe très bien. Oui. Aux armes citoyens et citoyennes.
D'accord.
C'est l'idéal.
Et la loi pure de l'IVG, vous la mettez
plutôt
carrément
pas.
Dans... Non,
non, non,
pas grand-chose à faire là-dedans. C'est tout, juste vous rajoutez
voilà,
les citoyennes.
Aux citoyennes.
Bon, très bien. Véronique Rissoult ?
Non, ça passe plutôt bien, effectivement, cette circonstance. Et voilà, c'est juste un sujet de est-ce que ce sera pour toujours ? Alors peut-être
vous,
pas
vous
le loi,
quoi
mais le citoyen-citoyenne.
Comme hymne national.
Ah, je ne sais pas si j'en ferai un hymne national, mais vous nous avez posé la question, effectivement, de qu'est-ce qu'on changerait.
Ouais.
Alors, je trouve qu'il y a eu cet après-midi une ministre qui, pendant sa conférence de presse, n'a pas chanté la Marseillaise, mais a utilisé un texte qui a le mérite d'être dynamique et sympathique et de parler des femmes.
On était à Matignon devant 100 femmes qui étaient primées et elle s'est mise à chanter elle-même, effectivement, voilà. La ministre Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation devant Gabriel Attal. Écoutez.
Prends garde sous mon sein la sous mon sang la grenade, sous vos sangs grenade.
Ça rigole en régie. Ça devait rigoler sur les réseaux, j'imagine, parce que
les gens se laissaient plutôt amusés. Alors évidemment, les opposants, comme d'habitude, ont critiqué, mais c'était plutôt sympathique. Et voilà.
Allez,
léger.
On parle plus sérieusement on continue à en parler parce que c'était très sérieux, mais de ce 8 mars, juste après le Fil Info avec Stéphane Milhomme.
Cette annonce, un 8 mars, journée internationale du droit des femmes à Lyon, les 1000 bus du réseau TCL vont devenir d'ici la fin de l'année des lieux refuges pour toute personne victime ou témoin de harcèlement. Elle y trouvera un accueil bienveillant. Des agents du réseau ont été formés et faciliteront le déclenchement de procédures. France Info vous le révèle, le groupe Liot à l'Assemblée dépose pour la semaine prochaine une motion de rejet préalable au projet de loi sur la réforme de la gouvernance de la sûreté nucléaire. Ce texte, déjà voté par le Sénat, prévoit la fusion de deux entités, dont l'autorité de sûreté nucléaire. Des syndicats redoutent également que cette fusion ne dégrade la qualité de l'évaluation des risques nucléaires en France. Pour accélérer l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, l'Union européenne, les États-Unis annoncent l'ouverture prochaine d'un corridor maritime entre Chypre et Gaza pour apporter cette nourriture aux Palestiniens toujours menacés de famine. L'Ardèche, le Var et les Alpes-Maritimes en vigilance orange face aux risques de pluie et d'inondations. Météo France met en garde contre de fortes précipitations dès demain. La Charente-Maritime est toujours en orange face au risque de crue.
France Info.
20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
Autour de la table ce soir, des informés Véronique Rissoult de Backbone Consulting, Olivier Perroux de L'Express, Franck de Dieu de Marianne et je salue Sylvie-Pierre Brossolette. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bonsoir, présidente du Haut Comité à l'égalité entre les hommes et les femmes. Merci d'être quelques minutes en ligne avec nous. Il y a plusieurs façons d'évoquer cette journée du 8 mars. On vient de parler de cette Marseillaise revisitée par Catherine Ringer. Il y a ces 200 manifestations dans tout le pays pour l'égalité homme-femme, notamment salariale. Il y a l'émotion, la solennité, les réjouissances du scellement. Et vous y étiez, Sylvie-Pierre Brossolette. Et puis, il y a aussi le terrain IVG égal assassin sur les vitrines du planning familial de Lille. Je pourrais aussi citer la statue de Simone Veil vandalisée à la Roche-sur-Yon. Vous, Sylvie-Pierre Brossolette, quel sentiment tout cela vous laisse au seuil de ce 8 mars ?
D'abord, une grande émotion parce que j'ai vécu il y a 50 ans le vote de la loi Veil dans les tribunes de l'Assemblée, toute jeune conseillère de cabinet de Françoise Giroud, qui était la première secrétaire d'État aux droits des femmes. Et 50 ans après, la boucle est bouclée, ça entre dans la Constitution. Donc c'est vraiment l'aboutissement d'un long combat et le verrouillage maintenant d'un droit qui devient fondamental et qu'il sera extrêmement difficile de toucher, et je m'en réjouis. C'est quand même l'essentiel avant tout. Qu'il y ait évidemment encore un résidu de protestations, de gens contre. Il y a bien, malgré les 85% de Français qui sont pour cette mesure, 15% qui sont encore farouchement opposés et qui manifestent de manière assez ignominieuse ici ou là leur opposition. C'est malheureusement la loi du genre. Il y a toujours dans les sociétés des gens violents qui marquent leur opposition. Je le regrette, ça abîme un peu l'unanimité, la dignité de cette journée qui est quand même historique. Toute la semaine a été historique. Ça a commencé avec le congrès qui a été un moment fantastique que j'ai vécu aussi sur place. Et une union nationale qui, pour une fois, en France prévaut. On est un pays qui se chamaille beaucoup, qui se dispute. Ce sujet-là a beaucoup divisé. Que maintenant, ce soit plutôt un sujet d'union, malgré ces scories désagréables que vous venez de citer, c'est une bonne chose. Et je retiens aussi de cette journée particulière la proposition du président de la République d'étendre ces droits sexuels et reproductifs à toute l'Europe et de l'inscrire dans la charte des droits fondamentaux européens. Il est grand temps que l'Europe se mette au diapason de la France. Je pense à toutes ces pauvres Hongroises, Polonaises et Maltaises qui n'ont pas le droit à l'avortement comme nous l'avons. C'est un scandale. En Europe, nous devrions tous avoir les mêmes droits et donc je pense que c'est le prochain objectif.
Vous ne partagez pas les inquiétudes quand même de ceux qui disent cette inscription dans la Constitution, c'est formidable, mais ça donne d'une certaine façon l'illusion que l'IVG est protégé, alors que 130 centres ont fermé depuis 15 ans, que beaucoup de médecins freinent des cas de fer et qui manquent clairement de moyens pour pouvoir appliquer la loi.
Non, mais il ne faut pas confondre deux choses. Le droit, qui est quand même fondamental, ça commence par là, et puis la mise en pratique. La mise en pratique est effectivement un peu mise à mal en ce moment parce qu'il y a des médecins qui se refusent à pratiquer l'avortement, mais ça c'est depuis le début, et surtout il y a des départements qui manquent de moyens. En revanche, il y a une mesure nouvelle qui va dans le bon sens, c'est de permettre aux sages-femmes de pratiquer l'avortement instrumental. Le décret va d'ailleurs être modifié pour que ça soit encore plus facile, donc il y aura maintenant plus de personnel pour le pratiquer. On a trouvé une sorte de parade. Je pense que l'essentiel va dans le bon sens. Bien sûr, ça manque un peu de moyens d'application, mais globalement, les femmes peuvent se faire avorter en France. Alors, je regrette beaucoup les départements où, effectivement, ça n'est pas encore au point et qu'il manque de centres et de personnel et de moyens. Mais ça, c'est une question, j'allais dire, pratique. Heureusement, le droit est là et si on y met les moyens à la volonté politique, ça se fera. La condition sine qua non, c'est quand même d'abord que ça reste légal.
Les autres combats, Sylvie Pierre-Bourcelette, qui restent prioritaires selon vous, quels sont-ils? Un des gros sujets, c'est l'égalité salariale, sans doute.
Bien sûr, l'égalité salariale, nous avons sorti, hier, nous avons remis au gouvernement le rapport du HCE sur l'index d'égalité professionnelle, qui malgré son existence depuis 5 ans, c'est le fameux index Pénicaud, n'a pas encore poussé les entreprises à faire assez de progrès. Il y avait une obligation de résultat, de progresser dans la note de 75 à 100. Ça stagne un peu et il faut vraiment faire un effort. Ce n'est plus possible que les femmes gagnent 24% de moins que les hommes. Il faut mettre fin à cette injustice. Il faut aussi évidemment mettre fin le mieux possible aux violences, parce que les victimes des violences dans ce pays, les violences sexuelles, ce sont les femmes à 98%, et que là encore, malgré des droits égaux, et je me réjouis que les droits soient égaux entre femmes et hommes dans ce pays, il y a dans la réalité plus de victimes côté des femmes que des hommes, que ce soit en matière d'inégalité salariale, de violence, de parité, qui a fait des progrès, mais on n'est toujours pas là. Il y a autant de conseillères municipales que de conseillers municipaux, mais il y a seulement 20% de maires femmes. Vous voyez, je peux vous citer beaucoup d'exemples. Ça progresse, le droit progresse, la réalité progresse aussi, mais il faut tous les jours faire des efforts pour que la réalité rejoigne le droit.
Juste avant de vous libérer, je reviens juste d'un mot sur ces égalités, ces inégalités salariales. Ça vous est arrivé à vous personnellement, Sylvie Pierre-Brossolette, d'être moins payée qu'un homme, et qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous conseilleriez aux femmes qui sont dans ce cas-là aujourd'hui.
Le problème, c'est qu'on ne le sait pas. On ne le sait pas.
Ah, mais je on suis le sait de plus en plus.
J'étais toute ma vie, j'ai été 37 ans journaliste, j'ai occupé des postes de responsabilité. Je suis persuadé que j'étais moins bien payé comme rédacteur en chef que le rédacteur en chef similaire d'un autre service homme.
Mais vous ne questionniez pas.
Mais je questionnais, mais qu'est-ce que vous voulez, pourquoi ils vous raconteraient combien ils gagnent? Alors, certains me l'ont dit, j'ai toujours su, ils ont toujours tous gagné plus. C'est évident, et on réclamait des augmentations, j'en ai réclamé. Mais vous savez, on vous dit, oh, bah, vous êtes quand même, vous êtes marié, vous êtes à l'abri du besoin, qu'est-ce que vous allez réclamer des augmentations? J'ai entendu ça dans mon.
Ce serait aujourd'hui.
Aujourd'hui, je pense qu'ils n'oseraient plus le dire et que ça va mieux. Mais pendant très très longtemps, déjà, rien que le fait d'être marié, on se disait, bah, celle-là, elle est casée, on a à peine besoin de la payer. Hein. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les jeunes femmes, Dieu merci, il faut qu'elles réclament, il faut qu'elles combattent, et il faut surtout que leur premier salaire soit aussi important que le premier salaire des hommes. Vous savez qu'il y a une différence. À la sortie des grandes écoles, les hommes, les garçons, à 25 ans, sont mieux payés que les filles comme premier salaire. Il n'y a aucune raison. Ils ont fait les mêmes études, passé le même diplôme, ils n'ont pas plus d'ancienneté que les femmes. Et donc, là, vraiment, c'est un scandale.
Bon, et on retient. Mais...
voilà, donc bon. Il faut absolument sévir et faire que il y ait l'égalité réelle pour les femmes et les hommes.
On retient, il faut réclamer. Merci beaucoup, voilà. Sylvie Pierre-Bossolette.
Merci à vous.
Présidente du Haut Comité à l'égalité hommes-femmes. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce 8 mars, Franck de Dieu, avec tout ce qu'on a mis sur la table, là?
Je retiens...
L'inquiétude ou on avance?
L'idée d'Emmanuel Macron de lui donner un caractère européen, de l'élargir.
À l'IVG dans la Constitution.
Oui, parce que d'abord, il faut rappeler que c'est un droit qui est fragile en Europe. Fragile. On a beaucoup parlé des États-Unis. C'est récent. Mai 2018 en Irlande, 2023 à Malte, et puis sous condition en Pologne. Et puis, c'est aussi, non seulement récent, mais en plus de ça, menacé. Menacé, on l'a vu en Espagne en 2013, il y a eu une tentative de réduire ce droit, et puis également en Hongrie.
Eh bien, on va en parler juste après la pause, puisqu'il est 20h30, l'heure de faire un point complet sur l'information sur France Info. Et je salue Edouard Marguet.
Bonsoir Bérangère, bonsoir à tous. En cette journée internationale pour le droit des femmes, le patron de l'ONU met en garde contre un retour en arrière dans les pays développés comme dans ceux en développement. Au rythme où l'on va pour changer les choses, nous sommes à 300 ans d'une égalité complète en droit pour les femmes, a déclaré Antonio Guterres. Ce 8 mars est historique en France. La loi sur la liberté d'accès à l'IVG a été scellée dans la Constitution et puis des milliers de personnes, en majorité des femmes, ont manifesté, ont défilé. Des rassemblements étaient organisés un peu partout en France et notamment à Paris pour une manifestation festive, émaillée toutefois de quelques tensions entre militantes pro-Israël et pro-Palestine. Autre manifestation en Grèce, 17 000 étudiants à Athènes contre un projet de loi controversé sur des universités privées qui prévoit l'équivalence des diplômes avec le public, mouvement qui dure depuis des semaines. Mais il y a eu des affrontements aujourd'hui, au moins 5 personnes ont été blessées. Un mort dans une avalanche à Villard-de-Lans en Isère ce matin, c'est ce qu'a appris France Bleu. Il s'agit d'un homme d'une vingtaine d'années. Il a été enseveli par une avalanche avec 6 autres alpinistes qui ont pu s'extraire de la neige et qui sont indemnes ce soir. La météo a une nouvelle alerte. L'Ardèche, le Var et les Alpes-Maritimes passent en vigilance orange. Pluie, inondation pour demain. La Charente-Maritime est toujours en alerte orange pour les crues. Dans une demi-heure, le début de la 25e journée de Ligue 1 Football. Nice reçoit Montpellier, coup d'envoi donc à 21h.
France Info.
20h, 21h. France Info, les informés. Bérangère Bonte.
On est ce soir en compagnie de Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, Olivier Perroux du service politique de l'Express. Et Véronique Reissoult, présidente de Backbone Consulting. On parle de ce 8 mars, de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Et Franck Dedieu parlait de l'Europe, puisque c'est le nouvel objectif qu'a fixé ce matin le président de la République dans son discours Place Vendôme.
Nous mènerons ce combat sur notre continent, dans notre Europe, où les forces réactionnaires s'en prennent d'abord et toujours aux droits des femmes. Voilà pourquoi je souhaite l'inscription de cette liberté garantie de recourir à l'interruption volontaire de grossesse dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Plus rien n'est acquis et tout est à défendre. Au-delà de l'Europe, nous nous battrons pour que ce droit devienne universel et effectif.
Ça vous inspire quoi, les uns les autres, Olivier Pérouse, ce nouvel objectif européen? On va rappeler peut-être qu'Emmanuel Macron s'est emparé de ce sujet-là, sur lequel il n'était pas forcément très à l'aise au début, et puis, vu l'œcuménisme désormais, il y est allé.
Voilà,
c'est un peu pareil au niveau européen.
Ça a traîné un peu des pieds. Alors, on peut voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire qu'en effet, aujourd'hui, il pousse ce sujet sur le terrain européen pour... inspirer d'autres pays à une époque où vous parliez justement tout de suite des États-Unis, de la Pologne, il y a pas très longtemps en Espagne où c'était assez menacé.
Au niveau français, la France Insoumise l'a réclamé dès
Jean-Luc Mélenchon, dans sa campagne en 2012, le présentait. Voilà, au début, ça a traîné un peu des pieds, mais au moins, le président de la République a compris qu'il fallait y aller, et y aller pleinement, et aujourd'hui, il ouvre les portes. Mais on ne peut s'empêcher aujourd'hui de voir qu'il y a là aussi, sur ce sujet, un étrange en même temps, l'éternel en même temps d'Emmanuel Macron. Il faut revoir ses propos concernant Gérard Depardieu, la défense de Gérard Depardieu, qui est accusé d'avoir agressé des femmes. Pourquoi l'avoir défendu?
Il rend fier la France, disait-il.
Oui, il rend fier la France. Ça, aujourd'hui, ce qu'on a vécu, ça rend fier la France, mais pas Depardieu. Alors, forcément, ça étonne. Il y a l'impression d'avoir deux Emmanuel Macron, le Emmanuel Macron d'il y a quelques mois qui défend Depardieu et aujourd'hui qui est une épiphanie sur ce sujet. C'est assez politiquement, quand on regarde, on a du mal à le suivre, y compris sur les sujets sociétaux. Et ça, on ne sait pas vraiment ce qu'Emmanuel Macron pense, là aussi.
Mais néanmoins, il part sur le terrain européen avec... quelles sont les chances d'aboutir, selon vous ? Au niveau européen, et d'emmener le reste du continent.
C'est-à-dire la Hongrie, si ça relève du traité,
l'Italie,
il faut tout de même qu'il y ait l'unanimité. Et donc, vous avez, comme je l'ai dit, des pays où c'est extrêmement menacé. Vous remarquerez qu'en France, les partis les plus de la démocratie chrétienne, les députés issus de l'Ouest, ont voté favorablement. Quelque part, effectivement, il y a quelques extrémistes fondamentalistes qui s'y opposent, mais globalement, les catholiques n'y sont pas du tout opposés et ne créent pas de problème là-dessus. C'est quand même une particularité française. Il y a beaucoup de pays où, par exemple la Pologne, où ça se passe pas aussi facilement. Donc effectivement, la possibilité que ce soit qu'il y ait un prolongement réel et constitutionnel, entre guillemets, de cette initiative me semble difficile. Mais en vérité, est-ce que c'est ça que Emmanuel Macron poursuit? Parce que ce qui est en train de se passer, peut-être va-t-on y revenir dans l'autre partie sur les profits du CAC 40, c'est que vous avez la deuxième partie de ce quinquennat qui se fait à l'aune des droits individuels et du sociétal. Alors, on peut dire que c'est tout à fait légitime, mais c'est une stratégie politique. Si vous voulez, à la fois l'aide à mourir, l'IVG, ce sont des sujets de droits individuels qui sont sociétaux et qui voisinent avec, sur le plan social, une forme de dureté. On va faire vivre des logiques un peu anti-assistanat, de réduction des déficits publics. Donc, sur le plan social, ça va être un peu dur. Et puis, sur le plan sociétal, ça va être, je dirais, plus sous à l'aune de plus de droits individuels. Donc ça, il y a une stratégie politique. Peut-être que la fin du macronisme est celui des droits individuels et du sociétal, et parallèlement, celui des restrictions sociales et de l'austérité économique.
L'aide à mourir, précisons-le, qui est un sujet qui va avancer ce week-end, puisqu'on nous annonce pour vendredi, pour dimanche plutôt, dans une interview dans la presse de lundi matin, annonces.
Ouais, c'est ça. Une double interview, d'ailleurs, encore une fois, en même temps, dans La Croix et dans Libération.
Absolument. Donc, Olivier Pérouse et Véronique Reissoul, sur cette stratégie d'Emmanuel Macron que décrivait Franck de Dieu, vous partagez?
Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a une volonté depuis longtemps chez Emmanuel Macron sur le terrain européen de mener la bataille des valeurs. C'est un libéral sur le point de vue des valeurs, pas que économique, Emmanuel Macron. Et on voit bien aujourd'hui en Europe qu'il y a une montée forte des populistes. Et c'est cette bataille-là qu'il veut mener. On l'a vu en Italie, on le voit en Hongrie depuis longtemps. Je suis pas sûr que faire entrer l'IVG dans la charte des droits européens soit une question de traité ou pas et qu'il y ait besoin de... Je dis juste qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, il est en train de se rendre compte que l'Europe est fragilisée, qu'il y a déjà depuis longtemps, à cause des populistes, une Europe sociétalement à deux vitesses, et qu'il est en train un peu de graver ça dans le marbre, et qu'on va voir aujourd'hui quel pays emboîte le pas de la France sur ça.
Alors il dit l'Europe, il dit le monde aussi. Hein,
Il n'est pas président du monde.
Je vous propose juste d'écouter un très bref extrait d'un discours de Javier Milei en Argentine, devant des lycéens argentins, qui donne une idée peut-être de la raison pour laquelle c'est bien de se préoccuper de ce sujet.
Je préviens que pour moi, l'avortement est un homicide aggravé par lien, par une personne de confiance, un ami, etc. Et je peux le démontrer d'un point de vue mathématique, philosophique, libéral.
Voilà, ça se passe de commentaires aussi. Vous voulez commenter, Olivier?
Ça se passe pas de commentaires. Je trouve que c'est, on n'est pas à l'abri aujourd'hui, compris en France, d'avoir. D'avoir un leader populiste qui aujourd'hui, la main sur le cœur, nous dit qu'il est pour cette loi aujourd'hui. Et
après,
ils reviennent.
Pour le coup, cette hypothèse-là, elle n'est pas complètement couverte et on ne le dit pas beaucoup juridiquement.
Le
texte dit tout sera géré par la loi, donc la loi elle-même pourra changer les délais, pourra décider de ne plus mettre de moyens.
C'est comme ça que les uns et les autres l'ont vécu. C'est un sujet de symbole. C'est un symbole fort qui protège, oui et non, et personne n'est tout à fait dupe. C'est aussi pour ça que sur l'Europe, c'est aussi un symbole. Est-ce que Emmanuel Macron va y parvenir? Peut-être pas, mais c'est un symbole fort. Et quand il dit le monde entier, oui, c'est un symbole. Après, on sait que la réalité, elle est tout autre. Il y a la loi et puis il y a aussi la faisabilité. J'évoquais avec vous tout à l'heure la réalité de les menaces qu'il y a, certes, par les hommes politiques, les menaces qu'il y a les uns et les autres qui, pour des raisons morales, peuvent donner des leçons. Mais il y a aussi les menaces des activistes et qui ne sont pas que des tags, loin de là.
Et vous allez nous détailler ça parce que ça, c'est très intéressant et vous avez évidemment une connaissance très fine de tout ça. Après, le fil info de 20h40. Stéphane Milhomme.
Le Hamas ne fera aucun compromis sur ses exigences d'un cessez-le-feu définitif dans la bande de Gaza et d'un retrait des troupes israéliennes, et cela en échange de tout accord sur une libération des otages. L'un des chefs du mouvement terroriste palestinien le déclare ce soir dans une vidéo, alors qu'Israël maintient son offensive dans le secteur de Rafah, entre autres. Le verdict à Saint-Omer de la cour d'assises du Pas-de-Calais, 30 ans de réclusion, dont une peine de sûreté de 20 ans. Jonathan Boilet, 36 ans, est reconnu coupable d'avoir brûlé vive sa compagne Sandy Cucheval, c'était en novembre 2020. La jeune femme était morte quelques jours plus tard à l'hôpital de Lille. Une enquête ouverte en France sur des soupçons de corruption autour d'Altice. Le groupe des télécoms est déjà visé par des investigations au Portugal pour les mêmes infractions. C'est la suite de l'arrestation par les autorités portugaises d'Armando Pereira, bras droit de l'homme d'affaires français Patrick Drahi, propriétaire de ce groupe. Le début de la 23e journée de Pro D2 de rugby, c'est la seconde mi-temps et Van, le leader, se fait déjà dominer par le FC Grenoble 17-7. Biarritz face à Montauban, Dax reçoit Béziers, entre autres. Avant Brive, Agen, c'est à 21h.
France Info.
20h, 21h. France Info, les informés. Bérangère Bonte.
Retour de la table ce soir. Franck de Dieu de Marianne et Olivier Pérou de L'Express et Véronique Reissoud de Backbone Consulting qui était en train de nous expliquer ces attaques numériques contre l'IVG.
Contre l'IVG, vous avez des activistes, ils ne sont pas forcément très nombreux, mais vous avez aujourd'hui des techniques qui vous permettent de compliquer la vie et l'application de la réalité de la loi. Alors on l'a évoqué, les déserts médicaux et la difficulté, mais vous avez aussi, quand vous avez un centre IVG qui fonctionne bien, il y a celui de Rouen l'a subi encore il n'y a pas très longtemps, vous avez des faux rendez-vous en masse qui sont pris, donc qui remplissent l'agenda.
Sait-on que ça vient des anti-IVG?
Parce que généralement, ils ne se présentent pas. Et donc, c'est la même chose que en fait, les anti-Trump avait fait la même chose à l'époque des meetings. C'est-à-dire qu'il prenait des milliers de faux rendez-vous. Mmh. Donc on pensait que la salle allait être pleine et il ne se présentait pas. Et l'objectif était effectivement d'avoir des meetings avec salle vide. Ben là, c'est de perturber l'agenda, d'empêcher les femmes de prendre rendez-vous. Alors ça, c'est le plus évident en soi et on peut trouver des astuces. Vous avez aussi le cybersquatting avec la réalité d'un site qui est détourné. Mais vous avez aussi des faux sites qui apparaissent. Si vous tapez, si vous recherchez des informations, que vous voulez prendre un rendez-vous, vous pouvez arriver sur un site qui a tout à fait l'air d'être celui d'un centre IVG. Et en fait, c'est un site qui est là pour vous dissuader de le faire, qui va vous poser des tas de questions, qui va vous emmener vers des réponses assez culpabilisantes. Donc en fait, c'est beaucoup plus complexe que simplement ce sujet de est-ce que la loi sera là et elle sera appliquée, parce que vous pouvez être empêché. Et puis après, on n'aura pas le temps, parce que ça ferait le temps d'une émission en entier, mais vous avez la réalité de l'image des femmes. Et ça nous fera peut-être rebondir sur le 8 mars en soi, qui est en train de changer vraiment pour les jeunes femmes. Quand on est capable de lancer des challenges avec des rituels beauté d'une petite fille de 10 ans qui doit se mettre de la crème pour être jolie et pour travailler son corps, et des petits garçons qui expliquent que les femmes, elles doivent être jolies. Enfin bref, on voit bien que les choses sont en train parfois de revenir en arrière. Sur Instagram, vous avez des influenceuses de 10 ans qui donnent des très bons conseils aux petites filles de 10 ans qui émettaient des crèmes.
C'est ce qu'on appelle les Sephora.
Les Sephora, tout à fait. Mais Sephora n'y est pas pour grand-chose.
Non, c'est juste le nom qui leur a été donné.
Et ce sont des vrais sujets en soi. On en a peu parlé dans cette journée, mais sur le web, les uns et les autres sont conscients. Vous avez aussi des sujets de réputation des filles sur les réseaux qui sont aujourd'hui dirigés par les hommes et qui doivent obéir aux hommes. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que simplement la réalité de « il y a une loi ». Ce qui est formidable aujourd'hui, c'est qu'il y a c'est transpartisan et que tout le monde se réjouit, mais il ne faut pas oublier une forme de réalité qui est plus complexe. Et là, c'est le mauvais côté du web qui, effectivement, fait que, voilà, sur Instagram, l'image des femmes et des petites filles n'est pas forcément celle qu'on aurait souhaité et qu'on aurait pu imaginer après tout ce qui vient de se passer sur la libération des femmes.
C'est un aspect qui n'est pas forcément politiquement traité, ça.
Non.
Et puis, tout à l'heure, Sylvie Pierre-Brossolette parlait de résidus de protestation, mais nos auditeurs doivent se rendre compte que en fait les réseaux sociaux aujourd'hui c'est rempli de ces résidus là et qu'ils ont une force de frappe incroyable, ils mettent une pression sociale et psychologique terrible sur les jeunes filles,
sur leur
aspect, etc. Et c'est extrêmement difficile de lutter contre ça, y compris par la loi. C'est compliqué de d'obliger justement les grands noms des réseaux sociaux.
Mais c'est un sexisme insidieux et on ne peut pas empêcher. C'est juste une question de l'image et de la manipulation de l'image et de la projection que.
Pour revenir aussi, parce que tout à l'heure, on parlait de symboles, de symbolique, de cette inscription, de cette nouvelle liberté dans la Constitution. Les gens qui sont contre, il faut bien qu'on comprenne ce que ça sous-entend aussi pour tous ces gens qui sont contre l'IVG et qui font ces usages que vous venez d'écrire. C'est que aujourd'hui, au même titre qu'être contre la peine de mort, c'est-à-dire être contre cette liberté, ça équivaut à être opposé aux nouvelles valeurs de la République. Donc, ce n'est pas rien. C'est-à-dire que toutes les strates de la société et les individus qui s'y opposent pourront être poursuivis aussi pour s'y être opposés à cette nouvelle liberté. C'est pas qu'un symbole, hein. C'est une loi aussi assez forte.
Allez, 20h46 et on va basculer sur notre troisième thème, même si Franck De Dieu a déjà fait la jonction tout à l'heure, et là j'avoue que je suis admirative. Et je vais me tourner vers vous parce que vous êtes quand même l'expert ici, hein, entre nous, l'expert CAC 40 qui reste donc en haute altitude ce vendredi à la Bourse de Paris, au-dessus des 8000 points. Avant, je lisais un rapport très attendu sur l'emploi américain. Je tourne vers vous, notamment, rappelez-nous, le CAC 40, certains observateurs reconnaissent qu'il y a un espèce d'effet trompe-l'œil, parce que on y met plus finalement que les meilleurs, et c'est un pot de 40 entreprises, un peu comme dans une classe où on met que les meilleurs et on écarte les moins bons dès qu'ils sont moins bons.
Oui, on y met les meilleurs, mais ils sont soumis tout de même au quotidien à des cotations. Donc le CAC 40 peut baisser et s'effondrer.
Non, mais quand il y en a une qui baisse, on la sort.
Alors, effectivement, mais celle qui accède peut aussi, elle accède sur des valorisations assez élevées, et donc elle se retrouve comme une valeur qui peut être spéculative et donc baisser en cas de bulle. Donc c'est quand même représentatif de quelque chose, vous avez raison, c'est une sorte de sirop de la Bourse de Paris, de concentré positif de la Bourse de Paris, mais elle est représentative de quelque chose. Là où on peut, sur les extrapolations, le critiquer un petit peu, c'est que les profits, les chiffres d'affaires dont on va parler, sont pour la plupart réalisés en dehors de France. Et donc, reflètent quelque chose qui, plutôt, est une photographie d'une économie mondiale, ou de phénomènes mondiaux, plutôt que strictement français.
Avant de savoir de parler de tous ces montants, expliquez-nous quand même ce paradoxe avec les turbulences géopolitiques qu'on connaît, que le monde connaît. Comment explique-t-on que l'économie mondiale aille aussi bien, ou en tout cas mieux que prévu, et comment on en arrive justement à ces résultats ?
C'est justement pas l'économie mondiale qui va mieux que prévu, c'est la valorisation des sociétés. Et la valorisation des sociétés, elle est liée à une sorte de code d'amour des investisseurs qui veulent acheter des actions, mais elle est liée aussi, de façon très plus objective, au profit de ces sociétés. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce paradoxe-là, c'est que les résultats 2023 du CAC 40 qui sont aujourd'hui annoncés sont à des niveaux records, les résultats, les profits, et donc entraînent des valorisations, des cotations supérieures. Mais tout cela, je dirais, voisine avec un chiffre d'affaires, c'est-à-dire un volume de facturation qui est stable. Vous avez des sociétés du CAC 40 qui n'ont pas augmenté leur chiffre d'affaires, donc leur vrai business, si j'ose dire, et qui pourtant ont augmenté leurs profits. Alors, je ne vais pas jouer aux devinettes, mais ce petit hiatus, il veut dire quoi ? Eh bien, il veut dire qu'il y a des marges, que ces sociétés du CAC 40 ont fait des marges. Y a-t-il des surmarges ? Y a-t-il des surprofits ? C'est un grand débat qui anime les journalistes, éditorialistes, les économistes depuis des siècles. Je crois qu'aujourd'hui, dans la mesure où nous sommes dans un univers qui est quand même restrictif sur le plan économique, sur le plan monétaire aussi, eh bien, faire davantage de marge alors que le volume d'affaires n'augmente pas, ça veut dire que ceux qui paient ces marges sont les salariés qui n'ont pas augmenté suffisamment leur fiche de paie. On a, à Marianne, comparé l'augmentation des dividendes de ces sociétés du CAC 40, c'était la moitié. On en avait 23 dans notre échantillon. Et puis,
23 sur les 40.
Voilà. Et puis, la masse salariale par emploi. Vous avez un rapport de 1 à 5. Les dividendes ont augmenté 5 fois plus vite au titre de l'année 2023 que la masse salariale en 2022. Donc vous avez quand même un problème. Donc moi, je veux dire, et c'est pas nouveau, même c'est pas Marx qui parlait du problème de confrontation lorsqu'il y a, il suffit de partager la valeur ajoutée. C'est David Ricardo, Adam Smith, c'est pas nouveau, c'était pas des révolutionnaires, mais ils voyaient bien que il y a un conflit, je dirais, de classe assez normal lorsque il est question de partager les profits. Là, le profit a été partagé au bénéfice, dans des proportions anormales, des actionnaires et au détriment, dans des proportions anormales, des salariés. Alors ça, on peut quelque part, alors on peut être sur des considérations morales, mais aussi on peut être sur des considérations qui soient plus économiques. C'est-à-dire que hier on nous disait, vous savez, c'était Helmut Schmidt en 1974, on a appelé ça le théorème de Schmidt, qui disait, c'est un chancelier allemand, qui disait, vous savez, les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Donc c'était vertueux, super, faisons des profits de plus en plus. On verra que par un effet positif, tout cela se communiquera aussi au niveau des salariés et de la fiche de paie. Eh bien non, ça ne marche pas. Mais Bérangère, c'est pas que ça ne marche pas depuis un an, ça ne marche pas depuis 20 ans.
Bon, on va essayer de régler ça, ce problème de 20 ans, parfaitement exposé par Franck Dedieu, après votre fil info Stéphane Milhomme, 20h51.
Recep Tayyip Erdogan se dit prêt à accueillir un sommet Russie-Ukraine, déclaration au moment où le président turc reçoit son homologue Volodymyr Zelensky. Depuis 2 ans et l'invasion de l'Ukraine par les soldats russes, la Turquie cherche à maintenir de bonnes relations avec les deux belligérants. Plusieurs manifestations dans le monde pour ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, des défilés à Paris et en région pour défendre l'égalité salariale comme le droit à l'avortement, la PMA. En Afghanistan, des femmes ont pris le risque de défiler par petits groupes aujourd'hui dans la capitale, Kaboul, alors que le régime des talibans multiplie les mesures liberticides envers elle. Alors que la CGTFO annonce des préavis de grève pendant les Jeux Olympiques de Paris, la CFDT n'a pas envie de gâcher la fête. Elle n'entend pas à ce stade mener des actions dans la fonction publique. Sa secrétaire générale, Marie-Lise Léon, assure être dans le cadre des négociations. Et puis Nice-Montpellier dès 21h, c'est le match d'ouverture de la 25e journée de Ligue 1 de football. 25 000 spectateurs attendus alors que les Niçois restent 5e du classement. Montpellier est 16e et en bas du tableau.
France Info.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
On est en compagnie du maître d'économie, du professeur d'économie Franck Dedieu de Marianne.
Non.
Olivier Perroux de L'Express, Véronique Ressoult de Backbone Consulting. Mais si, après cet exposé-là sur le CAC 40, il y a une réaction hier dans le 8.30 de France Info, celle de Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, sur ses profits des grandes entreprises. Écoutez.
Le problème, c'est que le gouvernement, par idéologie, refuse de regarder les secteurs sur lesquels il faut prendre les aides publiques aux entreprises et puis ce que gagnent les plus riches. Je rappelle qu'en 2023, les entreprises du CAC 40 ont distribué un montant record à leurs actionnaires, quasiment 100 milliards. Il faut augmenter les impôts sur les grandes entreprises et les plus riches parce que de plus en plus, les petites entreprises payent plus d'impôts que les plus grandes qui passent leur temps à faire de l'optimisation fiscale et de la fraude fiscale. C'est avec ça qu'il faut rompre.
Voilà, le résumé de la semaine, c'est les 10 milliards d'euros de coupes budgétaires annoncées par Bruno Le Maire avec 20 milliards pour l'an prochain. Et puis, c'est grosses plus-values de l'autre côté, Olivier Perroux.
Et politiquement, on entend ce que dit Sophie Binet, c'est compliqué. C'est marge énorme. Et puis aujourd'hui, les économies que Bruno Le Maire a annoncées, ça va être très dur à défendre dans les semaines à venir. Il va falloir expliquer justement comment on se serre la ceinture sans quelque part en prendre à ceux qui en ont. Mais il n'empêche que j'ai un souci parce que Sophie Binet dit il faut prendre aux riches. Mais ça veut dire quoi prendre aux riches aujourd'hui? Enfin, il y a 5 minutes, Franck Dionne nous a expliqué que ces marges étaient réalisées hors du territoire français. Donc elles étaient difficilement soumises à l'impôt. D'où ma question au professeur d'économie. Est-ce qu'il y a un moyen aujourd'hui de taxer, justement, où il faut changer toute la loi, tout le système, pour taxer ces profits faits à l'extérieur?
Professeur de Dieu.
Vous faites beaucoup d'honneur. Il y a un trait particulier depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est le taux de l'impôt sur les sociétés, qui est en fait le taux qui est prélevé sur les profits, qui tend vers la moyenne européenne. En gros, il y avait une particularité française qui était d'avoir un IS, comme disent les experts, supérieur à la moyenne européenne. Là, de degré en degré, eh bien, vous avez un impôt sur les sociétés qui est autour de 25% et qui est celui, en gros, des Européens. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ces entreprises européennes, et là, je vais peut-être, je dirais, pas me différencier, mais par rapport à ce que disait Sophie Binet, c'est que à partir du moment où vous mettez ces entreprises, vous les jetez dans le grand bain de la concurrence libre et non faussée, dans la mondialisation qui est ouverte aux quatre vents, où vous avez la possibilité, avec la liberté de circulation des capitaux, de changer vos investissements, eh bien, vous êtes contraint, quelque part, d'avoir un impôt sur les sociétés qui soit, je dirais pas incitatif, mais du moins qui ne soit pas dissuasif. Donc, la question est une question systémique. Elle n'est pas simplement fiscale, de se dire il n'y a qu'à faire payer les riches. C'est une question systémique. C'est la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de la liberté de circulation des capitaux, qu'est-ce qu'on fait d'un système où on considère qu'on ne peut pas contourner les règles de la concurrence parfaite, du dumping social, du low cost partout. C'est un sujet qui est absolument fondamental, qui est de nature systémique plutôt que de nature fiscale.
Mais qui se questionne à un niveau
qui n'est pas celui
tout en haut là.
Oui, qui n'est pas celui de savoir.
En
oui,
l'air, mais
c'est-à-dire que si qui n'est pas celui de savoir est-ce qu'on rétablit l'ISF ou pas l'ISF. C'est 4 milliards de recettes. Bon, moi j'y suis plutôt favorable, mais à la rigueur, la question est beaucoup plus fondamentale, elle est beaucoup plus systémique. Mmh. Elle se situe non pas dans la répartition des richesses, mmh. elle se situe dans le lieu de production des richesses.
Ce qui est clair, c'est que les résultats et l'ensemble de ce qu'on vient d'annoncer passent d'autant plus mal que Bruno Le Maire vient d'annoncer qu'il va falloir faire 10 milliards d'euros d'économies, et ça a été beaucoup ça cet après-midi, même si les volumes étaient relativement faibles au regard des annonces qui ont été faites, des bons résultats.
Volume de messages, vous voulez dire, sur ce, ouais, ouais, sur ce pic de CAC 40 ?
Oui, parce qu'en fait, ils ne sont pas tous aussi brillants et connaisseurs que Franck de Dieu, mais globalement, il y avait quand même pas mal d'internautes qui décortiquaient et qui rentraient dans le détail. En particulier, d'abord, presque tous étaient unanimes sur le fait que c'est un sujet mondial et que s'il n'y a pas un alignement, eh bien, les entreprises iront. Et parce que quand c'est une grosse entreprise, c'est relativement simple quand même de faire des refacturations et de faire sortir l'argent et donc de ne pas payer d'impôts dans le pays qui taxe le plus. Après, le vrai sujet qui pointait beaucoup cet après-midi, c'était un sujet autour de 92,4 milliards d'euros qui auraient été les coûts identifié par la Cour des comptes comme aide de l'État aux entreprises. Mmh. Et il le mettait en perspective avec la réalité de ce qui est annoncé. Et donc il disait, en fait, c'est là où ça leur semblait plus choquant. Ils disaient, maintenant, il faut aller chercher 10 milliards, on va les chercher dans nos poches. Et là, ça ne va pas parce que dans le fond, leurs vrais résultats ne viennent pas que de l'extérieur, viennent aussi d'une aide qu'ils ont eue, qui était sans doute nécessaire, et voilà. Mais les montants, comment quand on parle de milliards, on ne comprend pas toujours tout. Là, les montants, c'est à peu près équivalent, donc ça parle. Mais je me tais.
Les informés, coup d'œil sur la une de Marianne.
Oui, RN, l'imposture sociale, on l'a souvent dit, le RN plaît aux classes populaires. Nous, on a regardé de très près, de façon loi par loi, votée ou non votée, la position sur les questions économiques et sociales du RN, et je peux vous dire qu'il y a une vraie imposture sociale. C'est un parti qui ne défend pas forcément les plus modestes.
À la une de l'Express, Olivier Perrault.
Alors l'Express vous raconte les secrets des lieux de pouvoir. Alors l'Élysée, Matignon aussi, mais sous Île à Briche, le fameux château des présidents et des premiers ministres qui est raconté brillamment par nos journalistes.
Et vous lisez Véronique Reissoult dans L'Ultime Pouvoir, la face cachée des réseaux sociaux aux éditions du CERF. Les informés reviennent demain à 20h avec Victor Matté et avec toute l'équipe du Soir Semaine. Je vous donne rendez-vous lundi avec le retour de Jean-François Akili. Bonne soirée.